Imaginons un peu la scène. On observe un animal, un mouton pour être précis, qui naît dans un douar super isolé.
Ouais, vraiment au milieu de nulle part.
Voilà, dans des montagnes arides. L'animal grandit dans la poussière, il boit une eau qui est parfois hyper rare. En gros, son environnement est totalement dicté par la rudesse du climat.
Mmh. Une vie à la dure, quoi.
C'est exactement ça. Mais maintenant, faisons une petite avance rapide de quelques mois. Ce même animal, on le retrouve soudainement attaché dans un garage. Un garage bien carrelé, au cœur de Casablanca ou de Rabat.
Le contraste absolu.
Et là, le prix qui est affiché rivalise direct avec, je sais pas, le dernier smartphone haut de gamme ou une montre de luxe. On parle de 5000 dirhams, parfois même plus.
Ah oui, c'est des sommes astronomiques.
C'est une transformation qui est juste sidérante quand on y pense. Comment un être vivant, qui a commencé son existence avec si peu de ressources, finit par valoir autant d'argent?
C'est un vrai paradoxe.
Complètement. Et c'est ce paradoxe fascinant qui sert de point de départ à notre exploration d'aujourd'hui. Notre source principale, c'est une édition exclusive du média Logi, dans leur section Eco-Business.
Une édition datée du 25 mai 2026, d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Un dossier super dense, très percutant, avec un titre qui annonce la couleur. Ça s'appelle « Le mouton des 5000 dirhams ».
Et franchement, ce chiffre de 5000 dirhams, il claque comme un coup de fouet dans le contexte actuel.
Ah bah ça réveille, c'est sûr.
Et l'approche de Logi est vraiment très perspicace sur ce coup-là. Parce que l'article refuse catégoriquement de se limiter à une simple lecture comptable du truc.
Genre, on n'est pas juste sur un tableau Excel.
Exactement. Cette inflation spectaculaire, elle n'est pas traitée comme une anomalie isolée ou une petite courbe qui monte sur un graphique économique. C'est en réalité un miroir particulièrement cruel qui est tendu à la société marocaine moderne.
Un miroir qui révèle pas mal de choses, j'imagine.
Oh que oui! Ce dossier révèle des fractures profondes. On y voit une tension palpable entre, d'un côté, des rituels ancestraux et de l'autre, les rouages d'un capitalisme, disons-le, parfois sans pitié, et qui opère souvent dans l'ombre.
L'idée aujourd'hui, c'est vraiment pas de transformer cette session en un cours théorique hyper lourd sur l'inflation ou les indices des prix.
Non, ça serait assommant.
Voilà. Notre mission, pour ceux qui nous écoutent, c'est de retracer ce voyage invraisemblable. De comprendre toute cette mécanique invisible qui opère en coulisses. Bon, décortiquons tout ça.
Je suis prête. On commence par où?
Eh bien, pour comprendre comment un prix final peut gonfler de manière aussi vertigineuse, la logique voudrait qu'on regarde à la base de la pyramide.
Là où la valeur naît.
Exactement. Dans le monde rural. Parce que si le mouton coûte 5000 balles à la fin, l'intuition première, c'est de se dire que l'éleveur à la source doit vivre une année financière absolument exceptionnelle.
Ah, l'illusion de l'éleveur qui s'en met plein les poches.
Ouais, c'est ce qu'on se dit tous, non?
C'est clair. Et c'est justement l'un des mythes le plus tenace que ce dossier s'attache à déconstruire dès les toutes premières pages. Dans l'esprit de citadins qui voient ce prix astronomique, l'équation semble super simple. L'argent va directement au producteur.
Bah oui, ça paraît très logique.
Sauf que cette image de l'éleveur qui s'enrichit massivement avant la fête, c'est une illusion totale. La réalité de la production sur le terrain, elle est marquée par une extrême précarité.
Mmh.
Ce qui est fascinant ici, c'est le contraste absolu entre le fardeau du risque que cet éleveur porte sur ses épaules et la fraction vraiment dérisoire de la marge finale qui lui revient.
Tu sais, quand on parcourt cette partie du dossier, il y a une image qui vient assez naturellement à l'esprit. C'est la dynamique du grain de café.
Ah oui? Comment ça?
Prenons le producteur de café dans une région montagneuse, exposée à tous les éléments. Le gars, il plante, il attend des mois. Il vit dans l'angoisse d'un gel soudain ou d'une invasion de parasites.
Mmh.
Il récolte le fruit à la sueur de son front. Mais tout au bout de la chaîne, dans un petit café branché de centre-ville, un client va payer son latte aromatisé à un prix exorbitant.
Ouais, genre 5 fois le prix du kilo brut.
Exactement. Et celui qui absorbe absolument tout le risque matériel et climatique au départ, c'est justement celui qui est exclu de la vraie rentabilité à la fin. J'ai l'impression que l'éleveur de moutons, il est piégé exactement dans ce même schéma.
C'est une excellente comparaison. L'image du café fonctionne super bien sur le principe. Mais il y a une contrainte supplémentaire pour notre éleveur, et elle est implacable. Une contrainte que le producteur de café ne connaît pas du tout de la même manière.
Laquelle?
La biologie du vivant.
Ah oui, l'animal est vivant.
Exactement. Un sac de grains de café, tu peux le stocker dans un entrepôt pendant des mois, si le prix du marché est mauvais. Ça bouge pas. Un mouton, lui, il continue de manger chaque jour.
Ouais, il faut le nourrir, c'est pas un meuble.
Voilà. Et l'éleveur opère sous l'épée de Damoclès d'une sécheresse persistante qui a d'ailleurs détruit une grande partie des pâturages naturels.
Donc il n'y a plus d'air gratuit en gros.
C'est ça. Il faut acheter des aliments pour le bétail. Et devine quoi? Ces aliments, leurs prix, ont flambé sur les marchés mondiaux.
Aïe! La double peine.
Complètement. Donc, plus l'éleveur garde la bête en espérant un bon prix, plus elle lui coûte de l'argent au quotidien. Ça siphonne sa trésorerie. Il a zéro capacité de rétention.
Il est coincé.
En fait, quand le moment est venu, il doit vendre. Souvent au premier camion qui pointe le bout de son nez. Juste pour stopper l'hémorragie financière. C'est le premier maillon, mais c'est un maillon privé de tout pouvoir de négociation.
C'est rude! Mais du coup, si cet éleveur, qui a fait naître la bête, qui a géré tout le stress des mois les plus critiques, s'il cède ses animaux avec juste une petite marge de survie, il y a une question évidente qui s'impose.
Où va l'argent?
Exactement. Où s'évaporent ces fameux 5000 dirhams? Parce qu'entre ce douar poussiéreux et le salon carrelé de l'acheteur en ville, l'argent est bien capté par quelqu'un.
Alors là, on entre dans le cœur du réacteur. Le dossier de l'OGES trace ce qu'ils appellent la chaîne invisible. Et je te garantis que le passage du douar au salon, c'est pas du tout une ligne droite.
J'imagine bien. C'est le parcours du combattant.
Dès que le mouton quitte la ferme, il entre dans une espèce de zone grise. Une zone peuplée d'une multitude d'acteurs. T'as des collecteurs régionaux, des transporteurs, des engraisseurs à court terme.
Ça fait déjà beaucoup de monde à payer.
Ouais. Mais surtout, le dossier souligne l'émergence en force de ce qu'ils nomment les chenagas modernes.
Les fameux chenagas. Des intermédiaires.
Voilà. Et ces intermédiaires redoutables, ils ne se contentent plus de faire le simple pont entre l'offre et la demande. Ils modifient la nature même du produit.
C'est-à-dire ?
Le mouton n'est plus du tout considéré comme un simple animal de ferme. Il est littéralement transformé en un véritable actif saisonnier, un produit de spéculation pure.
Alors attends, je vais me faire un peu l'avocat du diable ici. Parce que quand on décrit ces intermédiaires, le vocabulaire qu'on utilise peut vite devenir très accusateur.
Je vois où tu veux en venir.
D'un point de vue purement logistique et économique, acheminer des centaines de milliers de bêtes vers les grands centres urbains, ça se fait pas par l'opération du Saint-Esprit.
Non, c'est un boulot monstre.
Il faut bien payer le carburant des camions, faut louer des espaces de stockage près des villes, faut continuer de nourrir ces animaux en attendant le jour J, payer les chauffeurs, les gardiens.
Bien sûr.
Tout cela constitue un coût réel, tangible, qui s'additionne logiquement. Ne risque-t-on pas de pointer du doigt, un peu sous le coup de l'émotion, des mécanismes qui sont finalement assez normaux de l'offre, de la demande et de l'inflation logistique globale?
Alors, il y a une part de vérité indéniable dans cette lecture, soyons clairs. Personne ne prétend que le transport ou le forage sont tombés du ciel gratuitement.
Voilà, ces coûts existent.
Ils existent et ils pèsent lourd. Mais la nuance cruciale apportée par l'analyse de notre source, c'est la déconnexion totale entre ces coûts réels qui sont justifiables, et la flambée délirante du prix final.
La marge est disproportionnée.
Exactement. Ce qui se met en place, ce n'est pas une simple répercussion des frais de logistique avec une petite marge commerciale classique. C'est une stratégie de rétention pure et dure.
De rétention pure et dure. Ils gardent les moutons.
Oui. Si on relie ça à une perspective plus large, on assiste en fait à la financiarisation d'un événement culturel. Ces réseaux de chenagas ont la capacité de louer d'immenses hangars clandestins, souvent en périphérie des grandes villes.
Et ils y cachent les mettes ?
Ils les planquent, oui. Ils orstrent la rareté. En injectant les moutons sur le marché urbain vraiment au compte-gouttes, ils créent de toutes pièces un sentiment de pénurie artificielle.
Ah ouais, le fameux « on va manquer de moutons cette année ».
Exactement. L'objectif de ces intermédiaires n'est plus du tout de couvrir le prix du carburant. L'objectif, c'est de maximiser la panique de l'acheteur urbain à mesure que la date fatidique approche. L'émotion de l'acheteur devient la variable centrale sur laquelle la spéculation se calibre.
Et ça marche à tous les coups. Ce qui amène direct à la réaction de l'acheteur face à cette manipulation. Parce que la théorie économique de base, elle nous dit quoi, hein ? Face à un prix perçu comme irrationnel et abusif, un consommateur rationnel opte pour l'abstention.
En théorie, oui.
Si un produit devient trop cher, la demande chute. On décide simplement de ne pas acheter, ce qui devrait forcer les vendeurs à baisser leur prix. C'est la base de l'économie.
C'est la loi du marché classique.
Alors pourquoi ce mécanisme correcteur ne se déclenche pas ici ? Pourquoi des millions de ménages continuent de débourser 5000 dirhams, quitte à taper dans leurs maigres réserves ou à s'endetter gravement, au lieu de boycotter massivement un marché qui joue contre eux ?
Eh bien, la réponse se trouve complètement hors du champ de l'économie classique. La rationalité financière s'effondre totalement face au poids écrasant de la symbolique.
On n'est plus du tout dans le rationnel.
Pas du tout. Le mouton n'est pas un bien de consommation courante. C'est pas une télé ou un frigo. Il incarne une obligation religieuse, bien sûr. Mais le texte souligne avec beaucoup de force qu'il s'agit avant tout d'une obligation intensément sociale.
Le regard des autres.
Voilà. Ne pas ramener le mouton à la maison, c'est affronter une série de regards inquisiteurs qui sont insupportables. C'est d'abord le regard des enfants.
Ah oui, pour eux, c'est la fête de l'année.
Pour eux, cet événement est le point d'orgue de l'année. Tu imagines la déception? Ensuite, c'est le regard du voisinage, les petits murmures dans le quartier ou la cage d'escalier. Le statut du père de famille, sa capacité à pourvoir aux besoins des siens et à maintenir la tradition, est publiquement mis sur la balance.
C'est lourd à porter.
Extrêmement lourd. Le refus d'achat n'est jamais perçu comme un choix de gestion budgétaire avisé, genre on fait des économies cette année. Il est perçu comme une faillite sociale, un déclassement humiliant pour toute la famille.
C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que cette paralysie psychologique face à l'acte d'achat, c'est un phénomène assez rare dans le commerce de tous les jours.
Très rare.
J'ai une analogie en tête, il illustre bien cette dynamique. C'est l'industrie du mariage, particulièrement le marché des alliances. Ou même, dans un registre beaucoup plus sombre, l'industrie des pompes funèbres.
Ah oui, c'est exactement la même mécanique émotionnelle.
L'acheteur est littéralement pris en otage par la charge sacrée ou émotionnelle du moment. Essayer de marchander agressivement le prix d'un cercueil ou négocier âprement au rabais une bague de fiançailles, ça provoque un profond malaise intérieur.
On se sent mesquin.
C'est ça. On a l'impression de trahir l'événement, de dévaluer l'amour ou le respect qu'on porte à l'autre personne. Et le vendeur de moutons de l'Aïd, eh bien, il opère exactement dans cette même faille psychologique. L'acheteur ressent une sorte de culpabilité à vouloir appliquer les lois froides du business à un rite sacré.
Mais le parallèle est d'une justesse frappante. Ce que l'OJ met vraiment en exergue ici, c'est la métamorphose du terme même de sacrifice.
Comment ça ?
Initialement, le sacrifice, c'est un acte de foi spirituelle. C'est l'essence même de la fête. Mais aujourd'hui, cet acte s'est doublé d'un sacrifice purement budgétaire, pour sauver les apparences sociales.
On sacrifie son portefeuille.
Exactement. On ne paye plus le prix fort uniquement par dévotion. On paye pour acheter le droit de ne pas avoir à se justifier devant toute la communauté. Et les vendeurs le savent très bien. Conscients de cette faille, ils détiennent un pouvoir de fixation des prix qui est quasi absolu.
Ils ont toutes les cartes en main.
Ils savent pertinemment que le chef de famille fera tout, absolument tout, y compris aller contracter un microcrédit à des taux parfois exorbitants ou vendre un objet personnel de valeur, juste pour pouvoir franchir la porte de chez lui avec cet animal. Le consentement à payer n'est pas libre.
Il est biaisé.
Il est carrément extorqué par la pression sociale ambiante.
Alors, on imagine assez bien l'état d'esprit de ce consommateur. Il est fatigué, hyper anxieux pour ses finances, il arrive sur le souk urbain ou dans un marché improvisé au coin d'une rue en ville.
Souvent après des heures de bouchons en plus.
Oui, l'ambiance est tendue. Et il se retrouve enfin face au vendeur final. Le gars qui tient la corde de l'animal et qui annonce, sans sourciller, les fameux 5000 dirhams.
Le moment de vérité.
Naturellement, toute la frustration que l'acheteur a accumulée va exploser contre ce visage visible. Ce petit vendeur devient soudainement l'incarnation de la cupidité. Le bouc émissaire parfait. Mais à la lecture de tous les mécanismes complexes détaillés dans notre source, ce dernier maillon est-il véritablement le grand architecte de cette flambée ?
C'est là qu'il faut vraiment faire preuve de discernement. La figure de ce vendeur urbain final, elle est souvent beaucoup plus complexe et nuancée qu'il n'y paraît au premier abord.
Il n'est pas forcément le méchant de l'histoire.
Loin de là. Dans de très nombreux cas, il est lui-même pris dans l'étau de cette fameuse chaîne ruineuse. Il a probablement dû acheter les animaux à prix d'or à ces réseaux de spéculateurs de l'ombre dont nous parlions tout à l'heure.
Il n'a pas eu de prix de gros intéressant.
Non, et en plus, il doit s'acquitter de droits d'emplacement informels en ville, qui sont souvent très onéreux. Des fois, c'est juste la mafia locale du quartier qui prend sa commission.
Ah oui, les frais invisibles.
Et par-dessus le marché, c'est lui qui supporte seul le risque de mortalité ou de maladie des bêtes sur les derniers jours. Tout ça en faisant face, de l'autre côté, à une clientèle qui est littéralement à bout de nerfs.
Il est pris en sandwich, quoi.
C'est le mot. Si l'on s'en tient à la thèse rigoureuse du dossier, le face-à-face, souvent très conflictuel entre ce vendeur urbain et l'acheteur, ça masque un problème beaucoup, beaucoup plus vaste.
Lequel ?
L'enjeu central qui se dégage de cette confrontation, ce n'est plus seulement une question de prix. C'est la désintégration progressive de la confiance publique.
Alors, qu'est-ce que tout ça signifie vraiment quand on l'applique au quotidien des gens ? Prenons le rôle des institutions, par exemple.
C'est un excellent point.
À l'approche de la fête, on voit souvent les journaux télévisés diffuser des messages super rassurants. On a des reportages annonçant des subventions étatiques massives. On filme l'arrivée de milliers de moutons importés au port, des moutons qui sont censés inonder le marché et donc forcer les prix locaux à la baisse.
Ah oui, le grand spectacle médiatique de l'importation.
Voilà, la théorie institutionnelle indique que tout est sous contrôle, que l'État gère. Et pourtant, quand ce même citoyen qui a regardé le JT la veille arrive sur le marché le lendemain matin, il percute un mur. Il n'y a absolument aucune trace de cette fameuse baisse des prix.
C'est l'écart entre la télé et la rue.
Tout se règle en grosses liasses de billets, de la main à la main. Il n'y a aucune facture, aucune traçabilité. Les grandes annonces macroéconomiques qu'on entend semblent glisser complètement sur la carapace de cette économie informelle.
Cette impuissance flagrante des politiques publiques face au secteur informel, elle est brillamment théorisée dans l'article. Ils utilisent un concept très parlant, le brouillard des prix.
Le brouillard des prix. L'expression est super visuelle.
Ouais, parce que, pose-toi la question, comment une subvention d'État peut-elle agir de manière efficace dans un marché qui est dominé à 100% par le liquide ? Un marché où aucune transaction n'est enregistrée, où il n'y a ni TVA, ni ticket de caisse.
C'est comme essayer de remplir un seau percé.
C'est pire que ça. Les bêtes importées et grassement subventionnées, qui étaient censées soulager le portefeuille des ménages, finissent très souvent absorbées par ces mêmes réseaux de chez Naga.
Attends, les intermédiaires rachètent les moutons importés ?
Bien sûr. Hein ? Elles sont discrètement intégrées dans leur circuit spéculatif, puis revendues au prix fort. Résultat des courses, l'aide financière de l'État se transforme en fait en marge bénéficiaire supplémentaire pour ces intermédiaires, au lieu d'alléger la facture du simple citoyen.
C'est complètement dingue, c'est l'effet inverse de ce qui était prévu.
L'opacité du circuit neutralise littéralement toute l'action publique, et cela soulève une question importante sur la gouvernance globale. On ne peut pas piloter, et encore moins corriger, un marché dont on ignore complètement les routes réelles et les acteurs principaux.
Le fameux brouillard.
Exactement. Le citoyen se retrouve incapable de réconcilier les annonces apaisantes du ministre à la télévision avec la violence inouïe des prix qu'il subit sur le terrain. Et ça, ça finit par développer une méfiance viscérale envers toutes les institutions officielles.
Franchement, c'est vertigineux quand on réassemble toutes les pièces du puzzle de cette exploration. Au début de notre session, on se demandait naïvement comment on passe d'un produit rural brut à un actif ultra valorisé à 5000 dirhams.
Ouais, le chemin a été long.
On a vu l'éleveur piégé par la météo et la biologie de l'animal, forcé de vendre à bas prix pour survivre. Ensuite, on a traversé les coulisses assez sombres des routes nationales, où des réseaux sophistiqués transforment la logistique en pure spéculation, allant jusqu'à cacher les bêtes pour affoler la demande.
La pénurie artificielle, oui.
Et enfin, on a atterri dans l'esprit tourmenté de l'acheteur urbain, écrasé par la peur du jugement social, prêt à s'endetter sur des mois pour ne pas perdre la face devant son quartier.
Tout un écosystème de pression.
Le tout évoluant dans ce fameux brouillard financier où même les subventions de l'État finissent par s'évaporer au seul profit du marché noir. C'est un engrenage qui est redoutable.
C'est un engrenage dont les répercussions, tu vois, dépassent très largement le simple cadre budgétaire d'une fête annuelle. Ça finit par toucher à la cohésion même de la société marocaine.
Ça abîme le tissu social.
Pour synthétiser ce long parcours qu'on vient de faire, la phrase conclusive du dossier de l'EDG offre vraiment l'éclairage le plus percutant. Les auteurs écrivent, et je cite, « Au fond, le mouton n'est pas le sujet. Le vrai sujet, c'est la confiance. »
Le vrai sujet, c'est la confiance. C'est fort.
C'est ça. La confiance dans l'équité des prix. La confiance dans la capacité réelle des pouvoirs publics à réguler ces dérives mafieuses. Et surtout, la confiance dans un tissu économique global qui semble avoir totalement abandonné le petit éleveur et le consommateur moyen aux appétits d'une spéculation sauvage.
Au final, on est face à une vraie crise systémique.
Exactement. C'est une crise d'adhésion au système lui-même.
Ce mot de confiance utilisé comme ça, il résonne comme un gros signal d'alarme. Décortiquer cet événement annuel sous ce prisme socio-économique nous force inévitablement à reconsidérer beaucoup de nos certitudes sur la manière dont notre société fonctionne. Je pense que, de mon côté en tout cas, on ne regardera plus jamais un marché festif de la même manière.
C'est clair. Et clair, cette réflexion nous invite à élargir notre regard bien au-delà de cette fête de l'Aïd spécifique. Je laisserai volontiers notre public avec une pensée, disons un peu provocatrice, qui est directement inspirée par les mécanismes qu'on a révélés aujourd'hui.
Je t'écoute.
Si une pratique aussi ancienne, aussi profondément spirituelle et ancrée dans l'identité collective que le sacrifice de l'Aïd a pu être au fil des années subtilement détournée pour devenir un simple produit dérivé ultra spéculatif, quelles autres composantes de notre patrimoine culturel sont en train de subir exactement le même sort en ce moment même ?
Ah oui, c'est une sacrée question.
Quand on observe, par exemple, l'inflation vertigineuse qui entoure désormais les cérémonies de mariage traditionnelles, ou la façon dont l'hospitalité légendaire et la gastronomie locale sont parfois monétisées à outrance pour des touristes ou dans des concepts pseudo-traditionnels.
On package notre culture ?
C'est ça. Ne sommes-nous pas en train d'assister, impuissants, à la financiarisation silencieuse de notre propre identité? Devons-nous vraiment nous habituer à l'idée de devoir payer toujours plus cher à des chaînes d'intermédiaires totalement invisibles, simplement pour avoir le droit d'exercer et de vivre notre propre culture?
Waouh! C'est une interrogation qui est vraiment très puissante. Le genre d'idée qui continue de travailler l'esprit bien après avoir éteint son écran ou retiré ses écouteurs.
C'est le but.
Réaliser que nos rituels, les plus intimes, les plus sacrés, peuvent être transformés en simples variables d'ajustement économique, c'est une perspective qui est troublante, mais qui est tellement essentielle à comprendre.
Tout à fait.
Merci à notre audience d'avoir pris le temps de plonger avec nous au cœur de cette analyse si complexe et révélatrice. Continuez d'interroger les évidences, comme on l'a fait aujourd'hui, et de chercher la vraie mécanique qui tourne derrière les apparences, c'est clairement le meilleur moyen de rester éveillé dans ce monde. À très bientôt pour une nouvelle exploration de nos sources.